Job de la presse, deuxième rendez-vous de la semaine. Nous sommes ravis de vous savoir encore nombreux câblés sur la 93.5 FM. L'émission de ce jour est mise en onde par Michel Toméga, Jérôme Akoutia sur la mise en ligne sur canalfm.com et sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook. Émission également écoutée en ligne sur Ibn Radio et Radio Le Bénin. Les populations de l'intérieur du pays écoutent Club de la Presse sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokolé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niantougou et Radio Courtoisie à Dapaon. Pour le débat de ce jour, nous avons autour de la table Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savoir News. Bonjour Ambroisine.
Bonjour Fosséni, vous tous qui nous écoutez, je vous salue. C'est avec joie que je vous retrouve ce matin.
Nous attendons Isidore Akolor du journal Actu Express et Eric Johnson du journal L'Union. Nous avons aussi un invité, il est le président du MMLK, Mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Pasteur Edo Komi, bonjour.
Oui, bonjour Fosséni, bonjour à tous et à toutes.
Nous sommes ravis de vous avoir tous dans cette émission. Le débat démarre dans un instant. Nous démarrons cette émission en attendant l'arrivée des autres confrères avec notre invité, Pasteur Edo Komi. Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour Fosséni, bonjour à Madame Ambrosine, que j'ai le plaisir de retrouver ici.
Il y a longtemps
avec l'agence Savoir News, on a fait beaucoup de choses. Je pense qu'on va continuer à faire beaucoup de choses pour le bien-être de nos lecteurs, de nos consommateurs.
De la population générale.
D'accord. Alors, tout récemment, le mouvement Martin Luther King a fait deux sorties. La première pour alerter sur la situation dramatique des travailleuses domestiques dans les pays du Golfe. La deuxième est aussi une alerte, mais sur la situation de plus d'une dizaine de Togolais en prison en Turquie pour défaut de carte de séjour. Alors, en quelques mots, rappelez-nous ces deux situations.
Alors, je pense bien que tous ceux qui nous suivent savent très bien que le mouvement Martin Luther King est toujours préoccupé par la situation, les conditions de travail de vie de nos compatriotes qui sont dans les pays, enfin qui sont de la diaspora, notamment les travailleuses domestiques pour les pays du Golfe. Cette fois-ci, il s'agit de Oman et puis de Yémen. Entre-temps, nous parlions de Liban, d'Arabie Saoudite, mais les conditions, la situation commence par s'améliorer, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses dramatiques qui se passent, ça commence par s'améliorer, mais nous allons juste polémiquer sur cette situation-là des Togolaises à Oman. Oman, vraiment, je dis, c'est un pays de non-droit. Et à l'heure où je vous parle, je peux juste vous dire qu'il y a deux compatriotes qui sont en situation très difficile, très déplorable, parce que pour avoir été arrêtés et mis en prison, juste pour rien du tout, on vous soupçonne. Dès que vous réclamez les meilleures conditions de vie, on trouve très rapidement les délits, c'est-à-dire on dit vous avez volé, vous désobéissez et puis finalement on vous met en prison et on est en train de faire la lutte avec le ministère des Affaires étrangères et puis le ministère de la Sécurité, mais il faut dire que libérés actuellement, elles n'ont pas de leur passeport pour rentrer parce que leurs employeurs ont confisqué les passeports et ne veulent pas restituer le passeport pour que nos compatriotes là puissent rentrer. C'est une situation vraiment que c'est comme si on n'arrive pas à percevoir l'ampleur de ce qui se passe. C'est vrai que ce sont nos compatriotes, mais dès que ces compatriotes quittent le Togo pour aller se chercher mieux ailleurs, ils sont toujours des Togolais. Il y a lieu quand même qu'on les suive de près et que quand ils sont en situation difficile, que l'État togolais puisse s'empresser de pouvoir leur venir au secours. Donc, je pense que notre alerte va toujours aux autorités pour que quelque chose soit fait et que les vies soient sauvées. Quand on aborde le sujet de la Turquie, je pense bien que c'est là où il y a le drame. Non seulement les Togolais sont en prison, mais c'est les Africains en général. Vous ne pouvez pas imaginer. Les vidéos que nous suivons, ce qu'on nous envoie tous les jours et qui sont réelles, c'est dire que la situation est dramatique pour ces compatriotes. Et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi la Turquie, qui depuis un certain moment se rapproche de l'Afrique, même le Togo. Même vous vous rappelez que la Turquie avait des problèmes récemment lors de tremblements de terre, que le Togo a contribué. Tout comme la Côte d'Ivoire, qui ont fait des dons d'une enveloppe vraiment significative, hein, des enveloppes significatives à la Turquie, mais qui aujourd'hui se comporte comme ça envers les compatriotes, envers les citoyens togolais, c'est dramatique. Donc la Turquie qui veut se faire partenaire de l'Afrique et qui se comporte comme ça, un pays de nos droits, où les gens sont poursuivis, hein, parce que vous n'avez pas de... Mais c'est les gens qui sont rentrés régulièrement quand même en Turquie. Ils ont le visa, ils sont rentrés. Maintenant, quand il s'agit de renouveler leur cadre de séjour, on ne leur accorde pas. Des gens ont payé même 600, 500 dollars, même pourquoi pas 1000 euros ou 1000 dollars, mais ils ne sont pas rentrés en position de leur cadre de séjour. Donc, et aujourd'hui, les Africains sont tous enterrés chez eux. C'est-à-dire, ils sont enfermés chez eux, ne peuvent pas sortir. Dès que vous sortez, on vous prend, on demande vos cadres, si vous n'avez pas, on vous met en prison. Donc, la situation est alarmante et nous interpellons une fois encore, non seulement le Togo, puisque c'est une affaire qui concerne l'Afrique, d'abord la CDAO, d'abord et l'Union africaine, parce que c'est là où on les attend plus. C'est nos compatriotes, nos concitoyens, hein, qui se trouvent dans cette situation. Il va falloir quand même qu'ils réagissent. Vous vous rappelez aussi en Tunisie, c'est pareil en Tunisie, en Égypte, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que les Noirs, nous qui avons la peau noire, qu'est-ce que nous avons fait et que partout, on nous maltraite de cette manière. Donc, je pense quand même que on connaît la diplomatie togolaise. Hein. Donc, la diplomatie togolaise est active, on nous le dit tout le temps. Mais je crois que cela doit être plus actif envers les Togolais qui sont dans ce genre de situation. Et c'est pourquoi nous interpellons une fois encore le ministre des Affaires étrangères, avec qui le ministère, là, nous avons transmis toutes ces doléances-là au ministère des Affaires étrangères et nous pensons qu'ils doivent agir. Les Togolais veulent rentrer. D'accord. Ces Togolais-là veulent rentrer. Ces Africains-là veulent rentrer. Et je pense que ça doit être une affaire, une activité, une activité concertée de tous les pays d'Afrique et dire à la Turquie que si elle veut être partenaire de l'Afrique, elle doit se comporter quand même en gagnant-gagnant et non pas seulement vouloir tirer l'intérêt de l'Afrique. Voilà un peu la situation qui se présente aujourd'hui.
D'accord, merci. Ambroise Memédé, justement, qu'est-ce qui fait que les Noirs sont plus victimes de cette situation? Est-ce que c'est à cause de la couleur de leur peau?
Je vais dire... En partie, oui, en partie. Quand on écoute, quand on voit tout ce qui est diffusé sur les télévisions à l'international, quand on voit comment les gens meurent dans les eaux, comment les traitements de certains compatriotes, on dit, mais nous sommes tous des hommes. Celui qui va à la recherche du travail et pense que c'est mieux qu'il y va, qu'il y aille de façon régulière. Et s'il arrive à atterrir dans un pays de façon régulière, qu'il a ses documents et sa pièce d'identité, les documents exigés dans le pays en question, et qu'il arrive à accéder à un travail, qu'il puisse vivre de son travail et qu'il puisse être citoyen, considéré comme citoyen, et jouit de ses droits, les fondamentaux qu'il puisse en jouir. Mais quand cette personne est traitée de façon presque inhumaine, la première des choses qu'on voit, c'est la peau, la couleur de la peau. Et ceux qui infligent ces traitements-là à travers ce qu'ils disent, aujourd'hui, WhatsApp est quelque chose, on décrit, mais WhatsApp nous permet d'entendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses.
Qui était voilé.
Ouais, et quand vous écoutez ces personnes qui maltraitent des personnes comme elles, et ce qu'ils sortent comme
paroles,
c'est vraiment discriminatoire. Et ça se base en général sur la couleur de la peau, la classe sociale, des choses comme ça. Alors que nous partageons le même ciel, nous partageons la même terre. Le sang est rouge partout. Donc, sur ces points-là, quand on se base sur ces points pour traiter et son semblable, on dit c'est vraiment inhumain. Et chaque être humain, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, et doit pouvoir bénéficier des fondamentaux en termes de droits liés à sa personne, à sa dignité.
D'accord, merci. Alors, pasteur, oui.
Non, juste pour... merci, je crois que madame a dit beaucoup de choses concernant justement le respect des droits et de la dignité de chaque personne humaine. Au même moment, attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui... Je crois que votre émission est bien suivie sur toute l'étendue du territoire, sur tous ceux qui sont les passeurs, c'est-à-dire ceux qui sont les agents clandestins, ceux qui font voyager les gens, ces réseaux-là même, c'est eux les criminels. Vous ne pouvez pas imaginer que tout ce que nous traverse aujourd'hui à Oman, il y a des gens aussi qui font la publicité pour dire aujourd'hui que le visa et le billet sont gratuits pour les jeunes filles de plus de 22 ans. Il y a encore des publicités actuellement qui passent pour dire aux gens que dès que si vous êtes une fille âgée de 22 ans, donc vous avez librement, gratuitement, vous aurez le visa. Et vous aurez le billet pour aller travailler à Oman. Vous comprenez.
Sur quoi ils se basent?
Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre cela. Donc, ces gens-là, c'est eux les criminels. Parce que c'est eux qui bénéficient beaucoup. D'ailleurs, l'argent qu'on envoie, ce qu'on envoie pour le voyage, ça tombe dans leurs mains. C'est eux qui prennent une petite partie. Et alors que quand nos compatriotes rentrent, elles vont travailler jusqu'à payer jusqu'à le dernier centime ça. Mais eux, ils prennent l'argent, on donne une partie. Et quand ils arrivent là-bas, ils travaillent 2, 3, 4 mois. C'est les gens là-même qui en bénéficient encore. Ils en bénéficient avant qu'on ne commence pas à payer.
C'est comme des démarcheurs.
Mais c'est des démarcheurs. Ce ne sont pas des agences régulières de placement de placement de ressources humaines. C'est des gens qui sont ambulants. Et bien, c'est eux qui sont les criminels. Puis c'est eux qui promettent serré-terre à nos filles. Surtout, c'est les filles qui leur promettent serré-terre. Quand vous allez travailler, on va vous donner un salaire de 500 000, de 600 000. Mais dès que vous arrivez, vous vous rendez compte que votre salaire est 100 000, soit 15 000, et que vous travaillez de maison en maison. Vous avez un seul contrat. Mais vous travaillez de maison, dans une maison, dans une autre maison, plus de 7 maisons par jour. Vous allez de maison en maison pour travailler, pour un seul employeur. Et donc, c'est ça, ces réseaux-là que nous tentons de démasquer et remettre aux autorités pour qu'on puisse les punir, parce que ils sont vraiment, c'est des criminels. C'est des criminels.
D'accord. Nous avons été rejoints par Isidore Akolor. Bonjour Isidore.
Bonjour Fousseni, bonjour pasteur, bonjour chers consoeurs Ambrosine.
Bonjour.
Sur le sujet.
Oui, d'accord, je suis sur le sujet. C'est pas où le pasteur trouve encore d'énergie pour défendre cette cause. Ça fait bientôt 10 ans.
Oui, depuis 2013.
Oui, qu'on a commencé à sensibiliser nos citoyens, nos concitoyennes, y compris même les étudiantes. Mais vous allez vous faire vendre.
Ça, ils sont vendus.
Elles sont vendues.
Ils sont vendues, oui.
C'est un esclavage moderne qui est en train de se
faire.
Vous y allez, on vous confisque votre document de voyage. Donc vous êtes en esclavage. Mais à chaque fois, on répète ça, mais je ne sais pas comment les gens s'entêtent à y aller. Moi, à votre place, je n'en parle plus. Non, parce que c'est comme si... Écoutez...
C'est dans le désert.
Après, c'est dans le désert. Bon, quand cela ne tienne, il faut toujours continuer, pas défendre les droits de l'homme. Bon, c'est le cas de la Turquie qui m'étonne. Qui m'étonne. Dans ce sens que, pas plus tard qu'il y a un an, Erdogan était de passage à Lomé ici. Ils ont réquisitionné même un enseignement au niveau d'une école au niveau de la caisse. Mais ils nous ont promis beaucoup de choses. Aujourd'hui, et on s'en rend compte que ce sont des chimères que c'est une vente comme tout, on se plaint pour les Occidentaux. Donc la question que vous avez posée, est-ce que c'est dû à la couleur de notre peau? Je dirais non. Je dirais d'emblée non. Mais comme le disait Eyadema, le chien ne craint que grâce à son maître. Mais c'est nos chefs d'État qui n'arrivent pas à s'imposer. Mais est-ce qu'on peut faire ça à un Français?
À un Turc.
À un Turc. Ils feront tout pour pouvoir le ramener à la maison. Ce sont nos chefs d'État qui ont démissionné. Tout est question de, comment dirais-je, d'hégémonie. Si les autres ont une hégémonie, mais on va vous traiter comme des esclaves. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
D'accord.
Je suis désolé de le dire.
D'accord. Nous avons, oui, en attendant que Eric Johnson, voilà. Eric Johnson, bonjour.
Bonjour, pasteur Dekomi, bonjour voisine, bonjour Isidore, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Ouais. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Union.
Oui.
Alors, vous nous suiviez certainement en venant, malgré tout ce que les gens savent sur la situation dans ces pays, les gens continuent quand même pas à y aller. Comment on peut comprendre ça?
Oui, c'est une démission de nos États. Du moment où on n'arrive pas à donner ce que les citoyens veulent, le minimum vital, comme on le dit, comme ils n'arrivent pas à avoir ça chez eux, ils sont obligés de partir chercher l'Eldorado. On connaît un peu la situation de ceux qui traversent la Méditerranée pour se rendre en Europe. Mais tous les jours, c'est des tueries par centaines. Mais malgré toutes les décisions prises au plus haut niveau, ça continue toujours. Mais alors, je dis, il y a le professeur Kakonu Bukpo qui vient de sortir encore
nous allons
un
en
nouveau
parler
livre. Et donc, dans ça, il est en train de dire un truc très important. Et si, par exemple, le Français qui arrive au Togo doit prendre le visa en France, dans les mêmes conditions que nous prenons le visa ici
pour aller
chez eux,
payer,
et ils décident de ne pas donner le visa à certains, si c'était le cas, je pense qu'il y aurait un peu de respect. Ce phénomène-là aussi crée tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nos frères qui sont là-bas et qui subissent un inhumanisme qui ne dit pas son vrai nom. C'est vrai, pasteur Dokomi et d'autres encore essaient à travers des associations, à travers... disons la société civile de sensibiliser les gens, mais ça ne peut pas être une solution aujourd'hui. Du moment où, regardez un peu, vous étiez en train de parler de l'Union africaine qui devait agir, de la CEDEAO, etc. Mais lorsqu'il y a une décision à prendre unanimement pour protéger les citoyens africains, mais des gens désistent. Les gens ne veulent pas que ça avance parce que c'est pas leur pays qui porte ces projets-là. Je ne sais pas, mais je peux déjà te donner l'exemple de la charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime. Aujourd'hui, il n'y a que deux pays qui ont ratifié cette charte-là. Pourquoi? Parce que les autres pays disent qu'il faut des décisions additionnelles au niveau de l'Union africaine avant de ratifier cette charte. Mais pourquoi ça bloque au niveau de l'Union africaine? Tout simplement parce qu'il y a des pays qui disent non. Comme c'est le petit Togo qui porte ce projet-là, il ne faudrait pas y aller. Donc, on va peut-être attendre que les autres décident d'autre chose pour que cette charte-là puisse peut-être arriver. C'était en 2016. Ça fait 7 ans de ratification sur les 35 pays qui ont signé cette charte-là à Lomé. Voilà autant de situations qui font que nos compatriotes subissent les affres de ces pays-là. Et pasteur Dokomi parlait du Liban,
d'Oman,
de l'Arabie Saoudite,
des pays du Golfe.
Mais il faut voir la courbette que nos chefs d'État, nos dirigeants font devant les dirigeants de ces pays-là pour comprendre que nous sommes déjà au plus haut niveau des esclaves de ces gens-là. Et donc, ce n'est qu'une répercussion sur les citoyens que nous sommes. Parce que aujourd'hui, on est là, on parle de cela, mais quand on sera fatigué de notre vie de misère ici, et qu'on décide d'aller là, on peut aussi subir les mêmes choses. Tout simplement, ce n'est pas seulement la couleur de la peau.
D'accord.
Mais il y a profondément nos institutions qui ont démissionné vis-à-vis de ces pays-là.
D'accord. Alors, Pasteur Edokomi, pour sortir de ce sujet, les pays africains ont des représentations diplomatiques dans ces pays. Est-ce qu'elles sont au courant de ce qui se passe contre leurs citoyens?
Non, il faut aussi savoir que quand nous avons, la plupart de c'est des consuls, des consuls honoraires. La plupart de ces consuls honoraires sont des gens qui sont même des autochtones de ces pays. C'est rare de trouver un noir, c'est-à-dire nous, un Togolais par exemple, qui soit consul là-bas. Donc c'est les mêmes personnes. Donc c'est le racisme, il faut le dire, est ancré dans leur peau. Et malheureusement que tout ce qui est porté à leur niveau, ça ne porte pas de fruits. Même au niveau de l'ambassade, nous avons de l'ambassadeur. Ben, la plupart des ambassadeurs, vous savez, des fois, dans ces pays-là, c'est du business, hein, parce qu'il y a de là. Donc, il y a des sujets tabous. Si tu ne sais pas faire, tu veux rentrer dans ça, ben, tu vois qu'il y aura du sable dans la farine. Donc, les sujets sont évoqués, mais quand vous écoutez, par exemple, nos compatriotes de la Turquie, tout ça là, il y a eu une représentation, mais apparemment rien. Il y a même les délégués, nos délégués de H, comment vous les appelez?
Le conseil,
ils sont là, mais apparemment, quand on échange avec eux, ils n'ont pas de pouvoir. Donc, c'est-à-dire que la démission est totale depuis les pays d'origine jusqu'à l'accréditation diplomatique et tout cela, comme on le dit, c'est la démission totale. C'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité qui est à la base de tout ça. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer que vous avez vu l'avocat de Sonko là, de Sonko, vous avez vu dans 24 heures comment ça s'est réglé. Mais si c'était un noir, ça n'allait pas, il allait moisir même, on va le condamner, personne ne dira rien. Sarkozy était venu chercher l'arche de Zoé là, au Tchad, pour cette affaire des enfants là. Mais vous avez Sarkozy était venu chercher le gars, il est venu le chercher au Tchad. Il est venu le chercher, mais nous aussi c'est un Africain. Mais il allait moisir en prison. Donc voilà un peu ce qui se passe. Nos dirigeants ont démissionné par rapport aux citoyens. Si un citoyen français est en Australie, a un problème, vous allez voir le président français sortir, même parler publiquement. Publiquement s'adresser aux médias. Mais nous, il peut y avoir des milliers, il peut y avoir un assez, on ne dit rien. Parce que nous n'avons pas du prix. Nous n'avons pas du prix, nous ne sommes pas considérés. Voilà un peu la situation.
D'accord. Moi, merci.
J'ai été vraiment touchée par une image que j'ai vue à la télé, une mère et sa fille qui finit par mourir dans le désert, la Tunisie, accablée par la chaleur.
Et la faim.
Voyez,
la faim, la soif.
Voilà. Cette image-là m'est restée dans la tête tellement ça m'a touchée. Je me dis, mais il n'y a pas de considération, même pas celle qu'on pourrait accorder à un chat ou à un chien face à ces images.
Et puis aucun communiqué officiel pour dénoncer
des Africains. Un être humain, au moins de l'eau, mais rien du tout. Et on sait que dans le désert, il n'y a rien, mais on les laisse quand même moisir là-bas. Donc ce sont des choses, des faits qui montrent à quel point nous sommes déconsidérés. À tel point, nous ne signifions pas grand-chose face à certains pays du Nord.
D'accord. Ouais. Merci à vous tous pour ce sujet. Dans notre rubrique culturelle de ce mardi, nous parlons tradition, spécifiquement de la fête traditionnelle Ondo Ichu. J'espère que j'ai bien prononcé.
Bien sûr.
Ou fête des ignames célébrée à Takpamé. Tradition, titre l'Union, la première ministre Victoire Tomega Dogbe a assisté à la fête des ignames. Et puis savarnews.net qui titre « Tradition au don Ichu ou fête des ignames célébrée dans l'allégresse à Takpamé ». Alors, Ambroisine Memédé, il paraît que la fête était très belle ce samedi à Takpamé.
Oui, très belle occasion de réjouissance, de retrouvailles entre les fils et filles du Grand Togo, dégustation de la nouvelle igname. Et c'est une fête rituelle des prémices chez les natifs de Grand Togo. La première a été célébrée en 1973 Et cette 50e, voilà, a été
jubilé d'or.
Vraiment une occasion de retrouvailles, comme je l'ai dit, danse et ressourcer. Je pense que garder contact avec ses racines, et se retrouver, et ce n'est que de très belles choses qu'il faut continuer à entretenir. Pour ce que je sais de cette fête-là, la petite histoire, c'est lié au peuple Ifé, et qui ont quitté une localité située au Nigeria qu'on appelle Ile Ifé. Ile Ifé qui veut dire la maison de l'amour, qui ont quitté cette localité-là, qui sont passés par le Bénin dans les localités comme Kétou, avant de s'installer dans les années 1700 à Atakpamé. Ils ont pris soin de prendre avec eux cette racine qui les a nourris sur tout leur trajet. Et ces fêtes, c'est pour remercier les membres de leurs ancêtres pour avoir permis une récolte aussi fructueuse d'igname et garder, renouer avec la culture et la perpétuer.
Justement, Eric Johnson, cette fête annonce sûrement une nouvelle saison des ignames. Oui. Ça veut dire qu'on peut en avoir en abondance actuellement.
Logiquement. Encore qu'il faut demander à Dame Nature de nous aider avec ces inondations qu'on a et qui gâtent forcément les récoltes. Et donc, Amboisine parlait du peuple Ifé. C'est pas seulement les peuples Ifé. En arrivant, il y a également les peuples Odu, les Fon et les Adja.
Les Anas.
Les Adja. Donc, c'est ces quatre peuples-là qui ont migré vers Atakpamé, qui sont installés. Donc, cette fête-là, c'est en quelque sorte un rappel ce périple de ces peuples-là qui forment aujourd'hui le grand peuple au goût de cette préfecture-là. Je crois que au cours de cette manifestation, la première ministre Dogbe est allée, je crois, non seulement pour elle-même, mais également pour représenter le chef de l'État. C'est dire à quel niveau on veut porter aujourd'hui nos cultures, nos traditions qui doivent être perpétuées et pourquoi pas pérennisées pour les générations futures. On est en train de perdre beaucoup de nos valeurs, mais il faudrait qu'on retourne quand même à nos sources pour garder nos cultures qui sont indispensables à notre développement. Les ignames, vous savez, quand les ignames commencent par être récoltés, les premières ne peuvent être mangées qu'après une série de cérémonies. Et je crois que c'est dans cette logique-là qu'on organise cette fête-là pour annoncer la sortie de cette nouvelle igname que tout le monde peut désormais manger. D'accord. L'abondance, on en parlera.
D'accord. Un mot, Isidore ?
Oui, non. Pour remonter à l'histoire, c'est la grande histoire de les autres des Agaïvés. C'est tout court. C'est sont passés par d'autres endroits, l'autre, les gens sont devenus certains par Oyo, d'autres sont passés par Ifé. Donc, c'est ça, pour remonter l'histoire, retracer l'histoire.
D'accord.
Bon, et ce que je fais remarquer, au Togo, on parle beaucoup de fêtes traditionnelles, mais la plupart de ces fêtes ne sont pas des fêtes rituelles.
C'est culturel.
Culturel. Et certaines, comme Odontou, dont vous parlez, et Adinoukouzan, sont des fêtes de moisson. Ouais. Tout comme, et prête-moi le mot, chez ta belle famille, ça fait des
ignames.
Une colle.
Abassar.
Abassar, oui.
La fête traditionnelle.
Oui, c'est des fêtes de moisson.
De pontré.
Par contre, qu'appelle-t-on chez les Kabyes.
Et voilà,
c'est une fête rituelle.
Il y a des initiations.
Et aussi, c'est une fête rituelle.
Les ignames sont par endroits des fêtes rituelles. Il y a la première igname avec de l'huile rouge. Et d'abord, on met sur au temple d'abord et la divinité pour la remercier avant la sortie, avant que ceux qui sont là ne consomment.
Mais ça coïncide avec la moisson.
Oui, c'est
ça même, c'est la moisson qu'on fait.
Ça part de l'abondance de la récolte avant.
Par contre, quand vous prenez Pessoso et d'autres, ça n'est pas lié à la moisson.
D'accord. Merci à vous tous. Et puis, Ambroisine Memede Cinéma, avec ce titre sur savanews.net, à l'épreuve du Goumen, le premier film d'Israël Tounou, en avant-première, le 19 août prochain à Lomé.
Oui, c'est le film, la première sortie en cinéma du film d'Israël Tounou, qui parle de Mira, cette jeune belle médecin, qui se retrouve au milieu de deux hommes, tous amoureux d'elle. Et en regardant la bande-annonce, le choix de l'amoureux est devenu une véritable aventure émotionnelle. Et c'est ce que vous allez vivre, hein. Vous allez vivre tout au long de cette projection qui se fera le 19 prochain à l'hôtel de février. Vous allez vivre plein d'émotions. C'est une aventure émotionnelle à travers une comédie romantique qui, en même temps, aborde des faits sociaux, notamment la trahison, une déception amoureuse qui aujourd'hui est d'actualité. Et vous allez reconnaître également Senza, qui est notre artiste de la chanson togolaise dans ce film-là. Et connaissant Israël Tounou, à travers son émission Cinéart, c'est lui qui donne la parole aux réalisateurs, parler de leurs œuvres, faire de petites critiques. Eh bien, le connaissant bien sur ce volet-là, on doit s'attendre à quelque chose de soigné, de bien. Et je pense que l'émotion et la créativité seront au rendez-vous.
D'accord, merci. Le journal L'Union s'intéresse aujourd'hui à la filière anacarde. Promotion des chaînes de valeur agricoles, la filière anacarde a besoin de 23,9 milliards de francs CFA sur la période 2024-2028 pour son développement, titre L'Union.
Oui.
Éric Nyonson.
Oui, vous savez que désormais, au Togo, l'agriculture est devenue c'est une priorité, mais c'est devenu le moteur de notre développement. C'est ce qu'a décidé le chef de l'État. Et il a bien compris, parce que bien avant lui, son feu père avait décrété produits togolais, la révolution verte qui était là, devait permettre au Togo d'être autosuffisant.
Combien d'années?
et après, permettre au Togo d'exporter son agriculture. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de faire la promotion de plusieurs filières agricoles. On avait parlé la semaine dernière de la filière ananas et également aujourd'hui la filière anacarde. Et ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué que cette filière-là n'est pas aussi développée comme le souhaitaient les premières autorités et surtout les promoteurs même de la filière. Et vous savez, aujourd'hui, toutes les filières ont quand même un inter-syndicat qui leur permet de se gérer, de se prendre en charge. Et donc, c'est cette structure-là pour l'ANACAD qui s'est réunie a fait un plan d'action qui va de 2024 à 2028. Et ce plan-là est chiffré à 23 milliards 9 pour pouvoir développer cette filière. Et donc, développer cette filière veut dire trouver des terres, les préparer pour la culture. Après, créer des industries autour de cette filière-là pour la transformation avant de parler de l'exportation. Et donc, je crois que c'est un travail qui a été fait et qui a été rendu public pour dire que cette filière-là est en train de... Enfin, malgré tout ce que l'on met dedans, vous savez, il y a des projets qui cherchent à développer cette filière, mais il n'y a pas derrière un plan d'action en tant que tel. Voilà que ce plan-là est aujourd'hui promu pour permettre à cette filière de se développer.
D'accord. La filière connaît un essor, mais les produits dérivés, bon, comme l'amande de cajou, restent très, très chers sur le marché. Oui. Pour avoir l'amande de cajou, une poignée coûte 500 francs. Alors, Isidore Akolor, c'est vrai, nous sommes en train d'évoluer, mais il faut revoir côté prix sur les dérivés de la noix de cajou.
Non. On ne veut pas demander aux paysans ou aux agriculteurs de vendre à moins de prix ce qu'ils ont produit chèrement.
Ben, si nous produisons, ça reste cher. Ça profite
tout pays, tout pays passe par là. Tout pays passe par là. Tout pays passe par là. Et quand mon confrère disait que on a, c'est peut-être maintenant qu'on a compris qu'on va asseoir notre développement sur l'agriculture, je dis que c'est faux.
C'est pas maintenant qu'on a compris.
C'est notre développement.
J'ai cité d'abord.
On a tout faux. Même l'histoire nous l'apprend. Que tout développement commence par l'agriculture, le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Si vous ne développez pas le secteur primaire, et vous vous mettez à commencer à développer le secteur tertiaire, qui sont les services et autres là, qu'on voulait être le hub de logistique, ces choses-là. Bon, ce sont des chimères. Ça, on l'a compris très tôt.
Que je puisse aller
en profondeur de mon développement.
Allez-y.
Pourquoi tu me coupes?
Allez-y.
Donc, on l'a compris très tôt avec la jeunesse pionnière agricole, dès les années d'indépendance. Mais on a laissé ça. On est allé dans le secteur tertiaire avec l'implantation des industries et des comment dirais-je, aciérie et pétrolerie. Toutes ces choses-là qui sont des éléphants blancs. Si maintenant on revient Et au basique, c'est une très bonne chose. C'est pourquoi on va parler des agropoles. Moi, j'attends que ça puisse prospérer. Les agropoles, j'attends que ça puisse prospérer, mais je ne vois pas l'impact quand vous fuyez les filières. Avant, on parlait de soja. Tout le monde sait dans le soja. Les gens ont le soja à bras le corps aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à vendre. On parle d'anacade. Mais je sais comment, jusqu'où ça ira. N'oublions pas que le pays qui a prospéré en ça aujourd'hui a des problèmes, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, inspirons-nous des choses. Produisons ce que nous pouvons consommer. Je ne sais pas. Produisons le manioc. Le maïs. Ce sont les produits de base.
D'accord, merci Isidore.
Je ne savais pas.
Avant de vous donner la parole, Pasteur Edokome.
Alors, j'ai suivi Monsieur Eric. C'est vrai quand même que ce que je retiens du Phoenix Signal, c'est que la terre ne trompe jamais. La terre ne trompe jamais. Ça, c'est une évidence. Et donc, nous avons beaucoup de terres. Quand vous voyagez de Lomé à Sinkassé, est-ce que vous voyez des terres qui sont non cultivables? Des milliers d'hectares qui sont non cultivables. Alors que la vie continue d'être chère. Supposons que nous avons les matières, les produits de base, le maïs, le haricot, le mil, le sorgho, ce que nous consommons, si on prend tout le Togo, ce qui est consommé dans chaque localité, et que nous y mettons les moyens, mais on ne parlera plus de la faim. Parce que c'est ce que nous mangeons. Alors, les filets avec soja et anacade, quand on en parle, c'est que
on a oublié, on a mis de côté ce que nous consommons naturellement. Et puis on a mis tout le cap, on a mis de l'argent dans le truc de soja. C'est comme si on ignore les produits vivriers que nous consommons naturellement. Et tout ça là, ça va servir seulement
à l'agro-business, c'est tout.
Bien sûr.
C'est plus
ça va servir seulement à l'agro-business. Et le reste, on va continuer par manquer, par souffrir.
Et importer les céréales vont devenir plus chères.
Les céréales vont devenir plus chères. Alors je pense qu'au moment où on parle de ces filets-là, il faut aussi marquer, il faut aussi, il faut aussi considérer cet aspect-là, hein, mettre des moyens sur les produits que nous consommons pour que nous n'en manquons pas. Et c'est de ça, c'est à partir de là que nous parlerons de l'autosuffisance alimentaire. Sinon, s'il n'y a pas ça, je pense qu'on va passer, à côté, on va continuer par en souffrir.
D'accord. Alors, 30 secondes pour sortir.
Ce que je voudrais dire, c'est tout ça, là, c'est une question d'organisation. Vous savez, il y a des régions où, forcément, on ne produit pas autant les produits vivriers que nous consommons. Et dans ces régions-là, on a la chance qu'on arrive à produire des produits de rente. Vous ne pouvez pas faire une agriculture uniquement de consommation. Il y a également une agriculture de transformation. Vous savez, et quand je prends le cas de l'agropole de Cara, aujourd'hui, il y a une société qui attend la production du maïs pour sa transformation. Et donc, ce n'est pas forcément que l'on met l'accent sur les produits de rente. C'est vrai. On avait parlé beaucoup du soja, du café, cacao et du coton qui sont beaucoup plus plantés par nos producteurs agricoles que les produits vivriers. Mais il y a aussi des productions cycliques. Et ça, c'est ce que recommandent aujourd'hui les ingénieurs agricoles, en demandant pour préserver les terres, il ne faut pas cultiver les mêmes choses pendant de longues années. Vous pourrez planter du maïs aujourd'hui sur un site, mais la prochaine, après la récolte, vous mettez du haricot, etc. Et donc, ça permet aussi de préserver nos terres. Vous savez, aujourd'hui, le vrai souci qu'on a, pourquoi on est allé aux Anglais, c'est parce que nos terres ne donnent plus.
Sont
devenues... c'est pas des hommes.
Elles
s'appauvrissent. Nos terres s'appauvrissent en nutriments pour nos plantes. Et donc, je crois que quand on fait la promotion de ces produits de rente-là, ça permet aussi d'engranger un peu de sous pour notre...
Mais c'est comme si... Non, permettez. C'est comme nous insultons la mémoire de nos grands-pères. Mais je me souviens très bien, quand on cultivait le maïs, on met du manioc et on met des légumineuses. Les légumineuses, arrête. Les légumineuses,
à tout de rôle.
C'est-à-dire les arachides ou haricots, mais on met dedans. Parce qu'on sait que ce sont des plantes fertilisantes.
C'est pour ça que le fait
La monoculture aujourd'hui appauvrit les sols. Et il est, comme l'a dit Isidore, quand on plante du maïs, en bas vous trouverez des arachides. À côté du haricot. Ça permet, ce sont des plantes qui se relaient en nutriments et ça se compense de part et d'autre. Et aujourd'hui, il y a une autre façon de faire la chose, mais qui était sûre, hein, et d'associer l'élevage. Et l'élevage permet d'avoir du fertilisant pour les champs.
L'agro-pastoral.
Voilà. Et il n'est pas dit de cultiver seulement les cultures vivrières. Parce que on sait, quand le maïs est cher, tout le monde le sent. Hein? Tout le monde le sent. Et on sait pourquoi.
Et le ressent.
Riche ou pauvre. Donc, de ne pas oublier de cultiver suffisamment ce que nous allons manger et penser également à ce que nous allons vendre.
Nous avons 3 millions d'hectares de terres arables au Togo. À peine la moitié est exploité aujourd'hui.
On a une carte de fertilité des sols.
Il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a l'exode rural qui fait que les mains valides quittent le village, c'est-à-dire les champs, pour se retrouver ici.
Aujourd'hui, ceux qui nous sortent de notre champ. Mais ce sont les herbicides qui ont fait renvoyer les gens, les mains valides. Le métayage n'existe plus dans nos pays.
S'il vous plaît, nous
sortons dans nos villages.
Merci à vous tous.
Mais qui veut encore
faire
le métayage? Merci, Didon. Avec les herbicides qu'on distribue à bouche.
Merci.
À chaque bout de champ.
Merci, Didon. Nous sortons de ce sujet. Alors, l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, traverse depuis 3 ans des chamboulements sur le plan politique, marqué par des changements de régime civil, par des régimes militaires. Le dernier événement en date est le coup d'État militaire au Niger, mené par le général Tiani. Suite à ce coup d'État, un bras de fer s'est installé entre, d'un côté, la junte militaire au pouvoir et de l'autre, la CEDEAO et les pays occidentaux au sujet du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. C'est un feuilleton qui est loin d'être terminé. Nous allons entendre dans cette émission un acteur de la société civile sur cette question. Pasteur Edo Komi, quel regard portez-vous sur cette situation en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Niger?
Alors, c'est vrai quand même que vous avez bien planté le décor pour dire qu'il y a trois ans, que les régimes civils sont renversés par les régimes militaires et pour cause. Alors, nous n'avons pas le regard sur le gouvernement, les gouvernants en Afrique. C'est de ça il s'agit. Parce que ce qui est important aujourd'hui pour cette génération qui veut s'affranchir, cette génération qui veut être libre, cette génération qui veut être bien gouvernée, alors on voit quand même qu'il y a de l'enthousiasme par rapport à un renversement d'un régime civil qui n'a pas du tout répondu aux besoins des citoyens. Et du coup, vous convenez avec moi, tout cela se passe dans l'espace francophone. Si vous regardez, c'est dans l'espace francophone par rapport aux pays anglophones qui ont évolué finalement parce que, à la base, il y a la puissance mère, la puissance colonisatrice qui laisse quand même la main aux gens, aux gouvernants de pouvoir s'occuper des besoins de leur... Ce n'est pas le cas pour les pays francophones. On sait que derrière, il y a toujours une main qui décide de choisir qui gouverner, même si ce n'est pas l'élection. On sait comment ça se passe dans ces pays francophones. Et donc, les coups d'État ne sont pas forcément, en tant que moi, je suis un défenseur des droits, donc les coups d'État ne sont pas forcément les solutions. Mais, finalement, on voit quand même que dans ces coups d'État, une certaine adhésion des populations. Et donc, ce qui se passe actuellement au Niger, alors moi, j'avais souhaité quand même il fallait ce coup d'État pour savoir une chose. Une chose, c'est que les pays francophones ne sont pas indépendants. C'est ça le coup d'État du Niger, c'est ce que le coup d'État du Niger a fait ressortir. Et on a vu, comme si le Niger est un département de la France. C'est-à-dire, du coup, c'est ça. Parce qu'un coup d'État dans un pays indépendant, mais pourquoi pas la France? La France ne va pas en Birmanie. En Birmanie, où la junte est là, depuis un certain moment, où il y a la dame là, Aung San Suu Kyi, qui est en prison. On n'en parle pas, on n'a jamais. On demande plusieurs fois sa libération, mais est-ce que les gens sont allés intervenir militairement? Bon, donc, c'est dire quand même que ce qui se passe, il a fallu ça. Pour savoir que les pays africains ne sont pas indépendants. Et du coup, l'adhésion autour de cette interruption des régimes démocratiquement élus, devient aussi peut-être la panacée. Je ne suis pas d'accord qu'on arrête un gouvernement démocratique, qu'on interrompe, mais la situation prouve que ceux qui sont là civils ne donnent pas l'espoir en ce sens que vous prenez le président nigérien actuellement. Qu'est-ce qu'il peut dire devant le président français, ce jeune président qui est élu? Vous voyez comment la plupart font de courbettes. Les grands-pères, Paul Biya, les gens qui sont, qui peuvent même donner naissance à la mère de, à la mère de Macron, ils se comportent. Donc, quand vous voyez tout ça, notre sous-région est en danger. Est en danger. Non seulement parce qu'il y a le coup d'État, mais les gouvernants ne sont pas prêts à satisfaire, hein, à satisfaire les aspirations des populations. Et du coup, on pense que c'est les coups d'État qui viendront sauver notre sous-région et surtout, plus particulièrement, l'espace francophone. Donc, je voudrais finir pour dire que c'est une leçon, c'est un enseignement. Un enseignement que quand vous êtes élu, parce que le Niger avec toute sa richesse, est l'un des pays les plus pauvres. Parce que quand on dit ça, mais c'est un peu contradictoire. On dit le pays est riche en ressources minières, hein, ressources du sous-sol, mais qui est aussi l'un des pays les plus pauvres. Et quand on fait la somme, c'est comme si, quand vous écoutez tous les Français, la plupart des Français, c'est comme si c'est le Niger qui nourrit les Français. On a l'impression que c'est le Niger qui nourrit les Français. Mais est-ce que... Je me rappelle, moi, on est une fois allé en Halite. Je connais bien Halite, là où il y a l'uranium. Écoutez, c'est la pauvreté, c'est la misère. Et une autre découverte qui est faite à quelques kilomètres d'Halite, où c'est réservé, c'est en réserve. Actuellement, c'est en réserve pour la France. C'est-à-dire, personne ne va aller là-bas. Mes chers amis, on ne peut pas continuer comme ça. Les Africains ont les yeux désormais ouverts et malheureusement, la France ne veut pas comprendre le langage, ne comprend pas le langage aujourd'hui, le langage des Africains. Et je pense que c'est elle qui va totalement finir, elle va totalement tout perdre. Et nous allons retrouver sûrement notre indépendance. Donc voilà, je ne suis pas d'accord pour les coups d'État, je le dis encore, je ne suis pas d'accord pour les coups d'État, mais l'espace francophone, à l'allure où les choses se passent dans l'espace francophone, on a l'impression que les gens sont élus, non pas pour les populations, mais ils sont élus pour satisfaire le desiderata d'un seul pays, d'une seule puissance.
D'accord, merci pasteur. Alors, Isidore Akolor, malgré toute cette pression sur les autorités, les nouvelles autorités du Niger, la page semble avoir été tournée de ce côté-là. On apprend même la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Ali Mahaman Lamine Zène.
Mais la France ou les Occidentaux disent toujours que le coup d'État n'est pas encore consommé. ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et au fait, ce coup d'État, on ne fait pas l'apologie des coups d'État, hein, nullement. Mais ça s'explique par une demande sociale non satisfaite de la nouvelle génération d'Africains. Dans l'ère du numérique, où les Africains ont compris que ils sont exploités et leurs dirigeants ne font rien pour sauvegarder leurs acquis, leur patrimoine, mais plutôt ils sont en train d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. C'est ça. C'est ça le nœud du problème. Si tant est que nos six dirigeants, en commençant par les regroupements sous-régionales comme la CDAO, la CEMAC et autres, jusqu'à l'Union africaine, prennent leurs responsabilités, je pense que nous allons bannir les coups d'État de notre continent.
D'accord.
Qu'à cela ne tienne.
D'accord. Merci, Gidon. D'accord. La CDAO.
Tu m'as arrêté dans mon élan.
La CDAO annonce un autre sommet ce jeudi, toujours sur la situation au Niger. Putsch, nouveau sommet de la CDAO jeudi à Abuja, après l'expiration de l'ultimatum au Niger. Titre savoirnews.net. Le bâtisseur titre intervention militaire de Bola Tinubu et sa CDAO au Niger. Le Sénat nigérien dit non. La grosse désillusion. Et maintenant, s'interroge le journal. Alors, Eric Johnson, qu'est-ce qui pourrait sortir de cet autre sommet, de nouvelles sanctions ou peut-être la mise en œuvre de la fameuse intervention militaire au Niger?
Ça, je vous avais déjà dit que ça n'arriverait pas. On n'ira jamais à l'utilisation de la force pour déloger des putschistes. Mais je pense que les dirigeants ont compris quand même qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'ils doivent quand même écouter aussi ceux qui ont commis ou ceux qui ont fait ce putsch-là. Il faut les écouter. Et de toutes les façons, moi, personnellement, je le dis, je ne soutiendrai, quelle que soit la raison avancée, je ne soutiendrai jamais un coup d'État, quel que soit le pays, quel que soit ce que l'on me dira aujourd'hui. On a vu des militaires au pouvoir dans nos pays. Qu'est-ce qu'ils ont apporté plus que les civils? Même si aujourd'hui, la situation est telle que les populations réclament plus, mais est-ce que c'est en faisant un coup d'État qu'on va régler les problèmes? Je dis aujourd'hui ce qu'il faut. Nous parlions tantôt de nos compatriotes qui sont en train de souffrir ailleurs. Et on parle de la démission de nos États, de nos institutions. Mais les militaires étaient là dans les années 60. On les a vus. Mais qu'est-ce qui a changé et pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation de précarité encore dans nos pays? Et je pense que ce que la CEDEAO aura à faire maintenant, c'est d'écouter ceux qui ont fait le coup d'État, de leur trouver quand même une issue favorable, que tout le monde arrive à discuter. Si il va s'agir d'une refondation de l'État nigérien, je pense que c'est tout le monde qui va le faire. Ce n'est pas seulement les civils qui vont parler au nom de ce peuple. Les militaires aussi sont là. Je pense que c'est ensemble qu'ils doivent discuter. La CEDEAO va peut-être sortir encore une batterie de sanctions, mais c'est qui va souffrir dans ça? C'est le peuple nigérien.
Sans oublier les autres pays.
Les autres pays, oui, mais voilà. Qui aussi bénéficient du Niger.
De toutes les façons, vous savez, le Niger est un pays de l'Interland. Et il y a le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, qui approvisionnent quand même ce pays.
Voilà.
Et donc, s'il y a sanctions, c'est que ces pays-là aussi vont souffrir en quelque sorte.
D'accord, merci Eric. Alors, Pasteur Edo Komi a un impératif. Un dernier mot pour nous dire au revoir.
Non, je voudrais juste dire, interpeller moi personnellement le gouvernement togolais par rapport à nos compatriotes qui sont dans ces pays dont nous venons d'en parler, parce que la situation est dramatique et il va falloir quand même porter secours à ces compatriotes. Et c'est quand ils seront là ici que nous aurons des mots à leur placer, parce que là ils sont en situation difficile, il faut leur porter secours. Je crois que c'est le mot que j'ai à l'endroit du gouvernement togolais, notamment du ministère des Affaires étrangères et de la sécurité et de la protection civile.
D'accord, merci Pasteur Edo Komi d'être passé dans cette émission.
Ça a été un plaisir.
À très bientôt.
Merci, bonne suite.
Alors, Ambroisine Memédé, la position du Togo sur l'intervention militaire est claire. Le chef de l'État s'est prononcé en faveur du dialogue. C'est une bonne chose, n'est-ce pas?
Alors, d'abord, nous savons que les coups d'État, ce n'est pas la manière de faire les choses. Ça n'a jamais régné, n'a rangé. Hein. Les pays qui ont vécu cette situation n'ont pas connu d'évolution. Et quand c'est fait, je pense que c'est en discutant qu'on arrive à aboutir à des solutions. Quand la CEDEAO dit qu'elle va passer par la méthode forte, je me suis demandé, le ciel est fermé au Niger et les Poutis sont coude à coude. De l'autre côté, au niveau du Sénat, au niveau du Nigeria, il n'y a pas une possibilité de dégager un contingent ou quelque chose. Comment est-ce que la CEDEAO pourrait faire? Aujourd'hui, moi, je me dis que la CEDEAO, c'est elle le problème. Et en même temps, elle peut être et elle doit être la solution. Ce n'est pas à d'autres de venir régler nos problèmes. C'est vrai, quand il y a un problème, il faut dialoguer. Et c'est la manière, la bonne manière. Si la CEDEAO essayait de renforcer ses tests, obtenir l'adhésion de tous les membres sur les points sur lesquels elle ne doit pas transiger. Je pense que nous ne serons pas à cette étape-là. Je pense que les populations, quand elles sont informées dans chacun des pays membres, que le développement, c'est sur ça qu'on doit se baser, et non les coups d'État, je pense que s'il y a des idées, même des tentatives de coups d'État, seraient découragées, parce qu'on vous dira, mais là où il va, je ne le conseille pas, parce qu'il aura la CEDEAO sur le dos, et tous les pays membres sur le dos, les tests. Il faut que la CEDEAO renforce ses tests, soit agisse avec fermeté, soit intransigeant par rapport à, et dans ces actions. Je pense qu'on arrive à ce niveau-là, on pourra dire que bien nos pays pourraient souffler. Parce qu'aucun pays, regardez en Guinée, qu'est-ce qui s'est passé avec Macky Sall qui fonçait, il a pu se retenir. Et puis bon, si on a, dans ces pays-là, qu'est-ce qui a fondamentalement avancé? Rien.
D'accord. Merci Ambroisine Memédé. Nous marquons une pause et on revient.
93.5. Canal FM.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Déjà, des auditeurs en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Didier.
C'est monsieur?
Didier. Eric, bonjour.
Didier, ok.
Bonjour, tu vas bien?
Oui, ça va, ça va.
D'accord, merci. On vous écoute.
Eric, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tout d'abord, je veux rappeler à notre femme qui est dans l'émission que c'est le Togo qui a refusé ce notre recours additionnel de la CEDEAO, le Togo, notre pays. Et puis, je suis conscient d'accord avec toi parce que, bon, au Niger, il y a des mécanismes, il y a un mécanisme de démolition de décision d'un président. Ceux qui ont fait le coup, ils le font en tant que quoi? Donc, les médecins, quand les médecins pourraient aller faire un coup d'état parce que la politique de la santé du pays n'est pas bien. Bon, donc on pourrait aller faire un coup au Togo parce qu'il y a l'insécurité au nord du Togo. Mais c'est pas normal, en faisant une bonne chose à nos enfants. Les militaires sont rouges, c'est quoi? La plupart du temps, depuis l'indépendance, c'est eux qui ont gouverné nos pays. Qu'est-ce qu'ils ont fou? La situation, c'est eux qui l'ont fait. C'est ce que nous avons fait. Nos parents ont fait en 63 au coup d'État contre l'Union. Ils ne sont pas soulevés. C'est ça qui nous amène dans tout ce problème aujourd'hui. Et vous voulez qu'on se prenne un coup d'État? C'est pas normal. Mais si la CEDEAO fait, on dit que c'est bon. Si le peuple, on dit que c'est pas ça aussi. Mais c'est pas normal. Éduquons nos enfants à la bonne marche de la démocratie. Un militaire se lève fait un coup d'État parce que les hommes ont te dit de garder quelqu'un. À celui que tu dois garder, tu le fais un coup d'État. Au lieu d'avoir honte, tu viens le dire. C'est pas normal. C'est comme mon gardien à la maison me fait un coup d'État. C'est pas normal. Ils ont les armes pour faire le coup d'État, mais ils n'ont pas les armes pour aller combattre les djihadistes. Mais non, je voulais vous rappeler aussi quelque chose. À l'entame du mandat du président Faure, il avait un différend avec le chef d'état-major. Le chef d'état a démissionné. Mais le président, comment il s'appelle, il n'a qu'à démissionner. Secondo, ils n'ont qu'à laisser aussi les partisans de Bazoum manifester pour voir s'ils sont d'accord ou pas. C'est pas normal ce que nous sommes en train de faire en Afrique. Moi, vraiment, vraiment, des fois, je vois même des Africains. Et puis les gens supportent parce qu'on a un problème avec la France. C'est un autre problème, on a une contention de la France, d'accord. Mais quelqu'un, si un poulet se lève aujourd'hui, il fait un coup d'État, il dit je suis contre la France, et puis on supporte ces poussées bêtement. Non, c'est conséquent avec nous-mêmes en Afrique. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Ce qu'ils ont fait, c'est du banditisme.
D'accord.
Mais on devait les arrêter même. Je vous remercie.
Merci, monsieur Didier. Allô? Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Allô?
Ah oui, bonjour, on vous écoute. C'est monsieur?
Monsieur Gado,
on vous écoute.
Bon, s'il vous plaît, je vais demander quelque chose. Est-ce que la France et les États-Unis veulent réhabiliter Bazoum ou bien l'uranium? C'est moi ma question. C'est l'uranium qui veut réhabiliter ou bien Bazoum? Secondo, dans notre pays, le bord du maïs est à 800 francs. À Gadagi et en SAC, ils font quoi? Au même moment, le gouvernement accepte l'implantation de moto-taxi. Bien, c'est ce qui gêne pour des moto-taxi et non pour l'agriculture. Pourquoi? Répondez-moi, merci.
D'accord. Merci à vous, monsieur Gado. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est monsieur?
C'est Armand.
Monsieur Armand, on vous écoute.
Oui, il faut dire que. On dirait que, concernant le putsch au niveau du Niger, les choses ne vont pas quand même dégénérer parce qu'on a appris aux dernières nouvelles que la porte est ouverte aux négociations, au dialogue. Mais il va falloir vraiment que nous puissions un temps soit peu nous poser des questions. Parce que vraiment, ce qui s'est passé au Niger, un différend entre le chef de l'État et l'un de ses collaborateurs qui sait encore ceux qui doivent, les militaires qui doivent le protéger, et du coup, on passe au coup d'État. Vraiment, c'est inquiétant. Et cela nous amène à dire clairement que la démocratie qu'on nous a apportée, elle ne tient pas. Soit nous allons d'un coup la rejeter, soit nous allons revoir celle-ci pour trouver comment on peut s'en accommoder. Parce que, bon, moi je ne comprends pas. Les mêmes qui avaient élu le chef de l'État, du coup, parce qu'il n'est pas, il a pris certaines décisions pas très claires, et puis on le fout dehors. Bon, il faut vraiment mieux revoir cela.
D'accord. Merci, M. Armand. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Monsieur?
Je salue le plateau.
Oui, bonjour.
Bon, à la suite, nous disons que nous sommes indépendants. Mais ceux qui nous accordent ceux qui nous ont accordé l'indépendance sont encore derrière nous. Sinon, les Occidentaux, qu'est-ce qui les concerne dans le pays, pour les affaires du Niger? Ils sont derrière l'uranium du pays, ou de la richesse du sous-sol du Niger. Donc les Occidentaux n'ont qu'à nous laisser en paix. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bien, monsieur?
Monsieur. Allô?
Oui, allô, oui.
Monsieur Gérard, excusez-moi, je vous l'ai
dit. On vous écoute.
Bien, tout à l'heure, j'ai écouté, je ne sais plus si c'est Isidore ou le pasteur Edo, qui parlait de la nouvelle génération africaine. Est-ce que d'abord, les anciennes générations et finalement cette nouvelle génération africaine, toute humilité, hein, et disons-nous la vérité, c'est exactement ce qu'elle cherche. C'est-à-dire, est-ce que l'Africain sait vraiment ce qu'il cherche? C'est vrai que nous cherchons la prospérité. Nous cherchons aussi une économie florissante. Nous cherchons, etc., etc. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que nous cherchons? Je ne pense pas. Sinon, ce n'est pas affaire des dirigeants. Moi-même, citoyen qui vote, moi-même, celui-là qui encourage une politique, est-ce que demain, en étant au pouvoir, je peux accepter qu'un opposant a vraiment gagné les élections, s'il a vraiment gagné les élections? Et si je suis de l'opposition et qu'on m'a gagné, est-ce que j'arrive vraiment à accepter? Ailleurs, oui, la vérité est sûre. Mais il y a des 0-0 qu'on veut avoir sur les comptes. Est-ce que nous savons vraiment ce que nous cherchons? Aujourd'hui, tout à l'heure, le pasteur Edo a parlé que c'est comme ça que nous aurons notre indépendance. Relisons bien le nouveau livre de Kakonou Boupon. Et aussi, le portable que vous avez sur la table là-bas, est-ce que vous êtes prêt à le fabriquer et à être sous les Wi-Fi zones pour surfer et être tranquille, avoir une certaine joie? Notre monnaie, on n'arrive pas encore. On met ça sur les chefs d'État, que c'est eux qui négocient pas bien, c'est eux qui soutiennent. Le Mali en a fait, et d'autres pays qui sont indépendants côté monnaie. Mais est-ce qu'ils sont déjà bien en avant? Aujourd'hui, les Africains crient. Les gens ont soutenu le Niger, hein, le coup d'État, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, le Mali et la Guinée, c'est parce qu'il y a une sorte de maraboutage. C'est des gens qui roulent actuellement, qui ne savent pas exactement où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire dans 2 ans, dans 1 an après les élections. Ou bien est-ce qu'il y aura vraiment élection? Nous ne le savons même pas.
D'accord.
Nous naviguons tous à vue, et ces gens-là, ils sont applaudis par une certaine population africaine qui arrive à cacher, entre guillemets, leur tard. Et dans 1 an, dans 2 ans, vous verrez qu'en Guinée, au Mali, rien ne changera de positif.
D'accord. Merci, M. Girard. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, bon directeur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour sur le plateau. Bonjour sur le plateau.
Bonjour, papa.
Bonjour, papa Sibiti. Comment vous allez?
Je voudrais saluer le pasteur Edo qui est parti. Bon, démocratiquement élu, CDAO, le président de la CDAO qui vient d'arriver. Il a des problèmes de Boko Haram. Maintenant, nous avons les djihadistes. Au lieu de s'occuper de ça, il faut qu'on laissons la théorie, on s'occupe de la pratique. On négocie les gens. Vous voyez, on militaires, les coups d'État, quelquefois ils sont salutaires. C'est parce que les gens ne comprennent pas bien les affaires chaudes. Tout le monde, il y a des choses. Ils n'ont pas peur des choses. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup. Allô?
Oui, bonjour le plateau.
Oui, bonjour. Présentez-vous.
C'est Bankole.
Monsieur Bankole, on vous écoute.
Oui, nous ne pouvons pas vouloir une chose et en même temps son contraire. Mmh. Nous sommes en train de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, l'état de droit. Alors, en aucune façon, on ne peut jamais être d'accord avec les coups d'État. Ça, c'est un principe. Alors, ce que j'ai apprécié dans vos propos, c'est qu'il faut écouter ceux qui ont perpétré cette coup d'État. En l'occurrence, ce qui se passe au Niger actuellement, il faut écouter la junte. Parce qu'il y a des causes immédiates. Et je crois que qui sait si cette situation dans laquelle se trouve le président Bazoum n'a pas été négociée avec lui-même pour le mettre à l'abri, pour que les militaires prennent le devant. On n'en sait rien. C'est pourquoi il faut privilégier le dialogue. Privilégier le dialogue. Parce que tout ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on ne peut pas ignorer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec les djihadistes, comment pouvez-vous comprendre que ceux qui vont au front et qui vont mourir pour leur pays, on les empêche à des moments donnés de s'attaquer à ces djihadistes-là. Ça veut dire qu'il y a un double jeu dans le système qui révolte nos militaires. C'est ça, ce double jeu qui révolte nos militaires qui sont censés protéger l'intégrité des territoires, de nos territoires, qui sont censés protéger les chefs d'État, nos chefs d'État, les citoyens, mais on fait de nos militaires des viandes dans les mains des bouchers. Ce n'est pas normal. Et ça, tout ça, c'est révoltant. C'est pourquoi, tantôt, nous disons à la CEDEAO de modérer et de voir et plus clair. Il faut négocier, écouter, ne jamais cesser d'écouter les gens. Pour finir, sincèrement, il faut dire à la France un certain nombre de vérités. Surtout à la France. Ce sont nos partenaires, certes. Nous n'avons rien, absolument rien contre le peuple français. Mais le système dans lequel l'oligarchie française nous maintient depuis des décennies, sincèrement, il faut que nos chefs d'État aient le courage de dire un certain nombre de choses à la France pour que les choses commencent à changer.
D'accord. Merci, M. Bankole. Un dernier auditeur. Allô? Allô? Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour. Présentez-vous.
Oui, bonjour, bonjour. Mais sont d'accord sur une chose. On a fait des élections dans un pays. Laissons le président dérouler sa politique. Il négocie avec la France, avec la Chine. Il est venu par un programme. Ce n'est pas aux militaires de venir faire un coup d'État. Ce n'est même pas leur rôle. Ils le font en tant que qui, en tant que quoi. Ils n'ont qu'à rester dans le casier, aller au front. Mais moi, je ne comprends pas ce que nous voulons en Afrique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, ils n'ont qu'à laisser les partisans de Bazoum aussi manifester.
Hein? D'accord.
Mais vraiment, des fois, je pense qu'on est maudit en Afrique. Quoi. Et puis, les gens supportent à passer parce que la France, c'est un autre problème. Si même on est un président qui vient négocier avec la France, c'est son problème. Mais s'ils veulent le président, ils n'ont qu'à lever les tenues et puis créer des partis politiques. Ou bien, Eric.
D'accord. Merci, monsieur Didier. Nous marquons une petite pause et on revient pour finir en toute beauté.
93.5. Canal FM.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, nous allons passer à l'étape des cartons.
Non, on ne peut pas réagir par rapport
aux auditeurs. Donc, vous avez 2 minutes pour réagir. Oui,
au fait, quand on ne nous méprend pas, nous sommes d'accord pour aller à la compte de tous les coups d'État. Mais souvent, ce qui crève les yeux, c'est les coups d'État militaires. on oublie des coups d'État électoraux. On oublie aussi les coups d'État institutionnels et constitutionnels. Mais c'est ça qui fait révolter les gens. Si tant on arrive à sévir contre ces formes, toutes ces formes de coups d'État, on peut valablement aller vers la démocratie que nous chérissons tous. On a constaté que est-ce que nos élections sont propres? Est-ce que les présidents sont bien élus? Est-ce qu'ils ont la légitimité même du peuple? Voilà autant de questions que nous devons résoudre avant de dire qu'on a confié la destinée d'un pays à quelqu'un qui peut aller les hypothéquer. C'est tout le nœud du problème.
D'accord. Maintenant, vous terminez avec un carton.
Un carton vert au CM, au personnel soignant du CMS UTB. J'étais leur pensionnaire de jeudi jusqu'à dimanche. Pratiquement, j'ai eu un palud aigu que ma loxine comprimée n'a pas pu guérir.
D'accord.
Et j'étais obligé d'aller là-bas.
Étant bien pris en charge.
Donc, pris en charge et chapeau bas. Carton vert.
Carton vert.
Carton vert, chlorophylle.
D'accord. Éric Johnson.
Alors, moi, je veux juste dire deux choses. Vous savez, qu'est-ce que nous voulons pour nos pays d'abord? On parle de développement. Le développement, vous ne l'aurez jamais en instabilité. Ce qui se passe aujourd'hui au Niger, c'est de l'instabilité. Donc, on a créé l'instabilité. Lorsqu'il y aura des sanctions, l'instabilité va encore aggraver les choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que nous voulons pour nos pays. On ne refuse pas. Et il y a des situations qui conduisent des gens à prendre les armes contre les régimes démocratiquement élus. Tout le monde condamne les coups d'État. Mais il faut qu'on aille encore plus en profondeur. On me parle aujourd'hui de l'uranium du Niger. Quels que soient les régimes qu'il y aura, ce ne sont pas des Africains qui vont pour le moment exploiter ces gisements d'uranium. C'est des gens qui vont encore le faire et ce ne seront que des Occidentaux ou, enfin, les néo-colonisateurs. Non,
on forme des ingénieurs,
oui.
S'il vous plaît. C'est pas un autre débat.
Oui, et je crois que pour le moment, on fait avec ce qu'on a, mais il faut que nos pays soient stables. C'est ce qu'on est en train de créer dans notre zone CDAO francophone. Et ça, ce n'est pas bien pour les populations.
D'accord, un carton.
Je donne un carton vers aux femmes du secteur maritime qui sont en train de faire un plaidoyer pour la ratification de la charte sur la sécurité et la sûreté maritime en Afrique, la charte de Lomé. Elles étaient en conclave à Lomé la dernière fois et unanimement, elles ont demandé à ce qu'on avance sur cette charte-là, dont 35 pays ont signé à Lomé, et jusqu'aujourd'hui, après 7 ans, seuls 2 pays, le Togo et le Bénin, ont ratifié.
D'accord.
Et donc, il faut qu'on fasse des efforts pour qu'on aille très rapidement.
D'accord. Nous terminons avec vous, Ambroisine Memédé.
Alors, on a compris que le coup d'État, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut véritablement lutter contre le coup d'État. Et je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, les putschistes, le Mali aujourd'hui, la nouvelle constitution des militaires, ils l'ont inscrit à l'article 187. Je vous cite l'article. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Et l'article suivant dit ceci. Les faits antérieurs à la promulgation de la présente constitution couverts par les lois d'amnistie ne peuvent en aucun cas faire l'objet de poursuites, d'instructions ou de jugements. Comprenez-y quelque chose. Voyez-vous? Et il faut fondamentalement que la CDAO intervienne. intervienne et soit ferme. La lutte contre les coups d'État doit être véritablement inscrite. Et on l'attend également sur d'autres faits, sur d'autres situations comme le djihadisme qui sévit. Et c'est ça qui fait que les populations ne comprennent pas pourquoi la CEDEAO intervient sur ce volet-ci et n'intervient pas sur ce qui concerne la population de façon générale.
D'accord,
et
merci. Le carton, votre carton. Embrasez le média, allez-y, alors, votre carton.
Carton, je donne un carton vert à tous les lecteurs, à toutes les lectrices, à tous les abonnés de l'agence Savoir News. Passez une fructueuse journée.
Merci à vous, Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savoir News, Eric Johnson du journal L'Union et Isidore Akolor du journal Actu Express. À la technique, il y avait Michel Tomega, mise en ligne Jéro Akoucha. Je suis Fousseni Saïbou, je vous retrouve demain à 11h.